est possible d'inventer, de réinventer une façon de vivre en mer de façon amphibie, c'est-à-dire aussi bien au-dessus du niveau de l'eau qu'en dessous du niveau de l'eau, en construisant des plateformes flottantes qui ne soient pas simplement des villes construites sur la mer sur un système de pieux qui viennent bien souvent détruire les écosystèmes, ou des villes construites sur la mer sur un système de polders qui est développé par les Hollandais, aux Pays-Bas notamment, et dans tous les Émirats arabes unis, qui est une technique qui n'est pas du tout durable, étant donné que ces bancs de sable s'érodent en général en une décennie. Donc ici, c'est simplement quelques projets de cette ville idéale, la ville Lilipad, qui est un projet qui a volontairement été créé pour engendrer des débats avec des sociologues, avec des politiciens, avec des économiciens, qu'on a présenté à l'ONU et à la communauté européenne pour savoir qui allait payer la dette écologique dans les 10 prochaines années. À savoir que le dérèglement climatique est principalement dû à nos émissions de carbone, à nous les pays occidentaux, et que ceux qui en subissent la conséquence sont à l'autre bout du globe et sont souvent des populations économiquement plus faibles. Et donc les gouvernements actuellement réfléchissent à qui va payer sa dette écologique. Est-ce qu'on devrait inventer une taxe internationale pour pouvoir construire les futures structures du futur qui viendraient offrir un nouvel habitat à cette nouvelle typologie de population mondiale?
Impressionnant. Moi, j'ai longtemps rêvé hein, devant vos images. La première question qui me viendrait, c'est de savoir comment vous avez collaboré avec les gens de la nation Kiribati et où en est l'avancée de ce projet. Étant donné que bon, la situation des îles Kiribati s'est un petit peu détériorée ces derniers temps, il y en a un qui fait un peu jurisprudence parce qu'il a demandé le statut de réfugié climatique à l'Australie. Oui.
Donc en fait, on a travaillé en partenariat avec la municipalité qui, à la base, a pris notre projet comme le logo représentant l'appel aux nations occidentales pour justement payer cette dette écologique. Donc c'est un projet avec lequel on fait un peu le tour du monde dans nos conférences pour essayer de sensibiliser la population. En fait, nous, après, en tant qu'architecte, on n'est pas omniscient, donc ça crée forcément des débats interdisciplinaires gigantesques avec les sociologues, avec les économistes, avec les politologues, pour savoir comment une cité aquatique peut fonctionner en autarcie, comment elle peut grandir, comment elle peut diminuer en surface. Et après, nous, on a fait notre travail d'architecte avec nos ingénieurs pour faire en sorte que ça soit possible, en partenariat avec l'ingénierie navale, de construire ce type de plateforme.
Nous reviendrons un peu, je pense, sur la partie politique et la partie économique. Mais ce que je voudrais un peu poser comme question à Claude Mamier, vous avez vécu, vous avez été voir les gens sur place. Comment les gens peuvent... Enfin, il y a des gens, vous avez vu rencontrer des gens qui étaient déjà déplacés, peut-être pas pour des raisons climatiques, mais pour d'autres raisons. Comment on vit quand on est déplacé?
En fait, je ne suis pas vraiment allé voir des gens qui étaient déjà déplacés. J'ai été dans un endroit qui est très à risque, c'est-à-dire à Alexandrie en Égypte, qui est une ville de 4 millions d'habitants dont la moitié vit en dessous du niveau de l'eau. Et autant me dire que l'eau monte et que... En fait, j'ai réussi à rencontrer là-bas quelques rares scientifiques qui s'intéressent à la chose et qui se demandent un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on pourrait faire pour éviter la gigantesque catastrophe que ce serait. Et leur gros problème là-bas, c'est que chez eux, on ne les écoute pas. Il y a toujours des problèmes plus pressés, économiques, en Égypte, en plus, les hasards de l'histoire et de mon billet d'avion a fait que j'y étais en plein milieu de la révolution. Ils avaient donc un peu autre chose à imaginer. Et voilà, je crois qu'il y a un grand nombre d'endroits où on sait vaguement qu'il y a un grand risque que ça va arriver dans 5 ans, dans 10, dans 50, comme disait Philippe, l'inondation du delta du Gange au Bangladesh va amener à déplacer entre 15 et 20 millions de personnes. on ne sait pas où, à l'intérieur, à l'extérieur. Si on va un peu sur le site des Nations Unies, il y a plein de rapports pour dire oui, les réfugiés vont être un problème, il va y en avoir énormément, ça va arriver très vite, mais on ne sait pas quoi faire, ça n'est pas la priorité. Et c'est là le problème, c'est que ça va arriver et il y aura très peu de choses prêtes. C'est comme le climat lui-même, on sait que ça arrive, on sait qu'il y a un problème et on ne fait pas vraiment ce qu'il y a à faire. Et ça va nous arriver dessus d'autant plus violemment.
Alors effectivement, Vincent Caillebout, vous présentiez des projets quand même qui existent, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui s'en préoccupent. Claude Ecken, vous avez écrit une petite nouvelle, vous m'avez fait le plaisir de me laisser lire sur le sujet en vous projetant dans l'avenir. Et la question, effectivement, c'est qui va payer, parce que c'est extrêmement cher. Je pense que Vincent Caillebout, je ne sais pas si vous pouvez donner les chiffres sur le coût de votre projet, mais...
Je sais pas, ça coûte combien, Lilibad, 2 milliards, 3 milliards de dollars?
Ça coûte, elle est estimée à 1 milliard 2 pour abriter 50 000 habitants.
D'accord. Et donc, oui, c'est 100 000 habitants pour les îles Kiribati, je crois.
Donc, c'est jouable, mais il faut dresser les partenariats internationaux, parce que forcément, c'est pas l'île qui va se reconstruire d'elle-même.
En fait, c'est vrai, il y a toujours la question de l'argent, et bon, c'est pas seulement valable pour les îles Kiribati ou Tuvalu, ce sera pour le Bangladesh, peut-être pour certaines régions de France également. On voit bien qu'on est toujours en train de parer au plus pressé lorsqu'il y a eu une inondation, une tempête, et au lieu d'investir pour faire en sorte d'abord d'empêcher le climat de se détériorer davantage, et puis ensuite pour se prémunir contre tous ces changements. J'avais participé il y a quelques années à un colloque organisé par Vivagora sur Avignon, qui ne fait que réfléchir sur changer le paysage et la ville face au changement climatique, réfléchir là-dessus, mais à l'échelle locale, puisque les solutions ne sont pas les mêmes d'une région ou d'un pays sur l'autre. On sait par exemple que la vigne est le premier indicateur de changement climatique. Vous avez tous remarqué d'ailleurs que le degré des bouteilles de vin a quand même augmenté depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Dès que ça chauffe, c'est le degré qui monte. Et le problème pour changer tout ça, c'est qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas les moyens de financer ça. Lorsque l'on change une société, il faut toujours penser qu'elle ne change qu'à la vitesse du plus lent. Et là où il faut se méfier, c'est qu'on ne laisse pas en arrière tous les gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans des maisons davantage écologiques, et qu'on ne rajoute pas à l'image du pauvre l'image du pollueur, puisqu'il n'a pas les moyens de faire attention et d'investir dans des constructions d'avenir. Donc ça pour moi c'est un gros problème.
Moi je voudrais embrayer aussi en renversant un peu la vapeur, donc c'est-à-dire qu'effectivement nous en tant qu'architectes et urbanistes on est amenés à proposer des solutions pour apporter une réponse au dérèglement climatique, mais on est aussi souvent consulté pour apporter une réponse à la source, c'est-à-dire comment ne plus polluer, comment faire en sorte que les pays occidentaux inventent des nouvelles énergies propres. Donc là je vais faire juste un petit encart sur l'explication de la fiche des Utopiales avec le projet Hydrogénase, qui est un projet de zeppelin vertical se déplaçant grâce à une énergie propre renouvelable à l'infini, qui est l'hydrogène, qui est un gaz que l'on peut produire à partir de la dégradation des déchets plastiques et des déchets carbone qui se trouvent dans nos océans et qui peuvent être recyclés à travers des réacteurs anaérobies d'algues vertes, c'est-à-dire par un processus de photosynthèse accélérée pour essayer d'inventer la mobilité du futur. Ce projet, c'est un projet qui nous a été commandité en recherche fondamentale avec un laboratoire américain pétrolier pour justement, c'est intéressant dans le thème du festival, c'est de dire comment la science et la fiction peuvent nous aider à se projeter dans les énergies propres de demain et de transformer en un changement de paradigme nos sociétés post-carbone en des sociétés renouvelables. Et donc c'est quelques images de ce projet qui expliquent justement comment à partir de fermes urbaines flottantes qui viennent épurer les eaux usées dans ces bioréacteurs, on peut créer une énergie propre, sans émission de carbone, renouvelable à l'infini.
Bon, alors on a évoqué le problème de l'argent sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on n'a peut-être pas effectivement, nous, les moyens et de rentrer dedans. Mais alors là, je pose à tout le monde, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Quels sont les droits des réfugiés climatiques? Y a-t-il des droits internationaux? Est-ce que des rencontres comme celle de Copenhague ont fait avancer les choses ou pas du tout? Je ne sais pas, peut-être que...
À ce que je sache, alors on me démentira peut-être, mais il me semble malheureusement que la réponse est aucun. Non.
Bon. Je pense que les juridictions sont en plein développement et justement l'innovation doit d'abord passer par la nouvelle législation internationale.
Ouais, je ne crois pas qu'il y ait de statut de réfugiés climatiques, mais parce que les problèmes sont inédits. Le problème des îles basses du Pacifique, de Kiribati, des Maldives, c'est des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire c'est la disparition d'un territoire alors que l'État demeure. Ça, c'est déjà arrivé de voir des États disparaître, de voir des populations quasiment disparaître ou fuir, et de voir l'État disparaître. Mais voir un État demeurer, la population demeurer alors que son territoire a disparu, c'est des problèmes inédits en termes de juridiction internationale. Qu'est-ce qu'on fait du gouvernement des îles Kiribati s'il n'y a plus d'îles Kiribati et qu'ils habitent tous un peu en Australie, un peu en Nouvelle-Zélande, un peu partout? Donc c'est pour ça d'ailleurs que la réponse de l'île est une réponse à cette question-là. C'est-à-dire ils ont à nouveau un territoire. Ils n'ont peut-être pas un ministre de l'aménagement du territoire, mais ils peuvent avoir un ministre des Finances. Quoi. Ça a du sens. Mais les problèmes sont inédits et le statut de réfugié climatique n'existe pas en tant que tel. On parlait tout à l'heure de l'Australie qui a accepté d'en prendre quelques-uns. Ils ont accepté d'en prendre 30 par an. Ça fait quand même pas beaucoup. Quoi.
Sur 100 000. Je sais pas, enfin, le Sahara, il avance depuis quand même un certain temps. Donc il y a, doit y avoir déjà des gens qui sont... rejetés de chez eux, qui doivent partir de leur pays, non?
Oui, mais je crois qu'on n'a pas encore... On n'est pas encore arrivé au nombre critique. C'est-à-dire qu'en ce moment, tellement la notion de réfugié existe, politique, et les gens qui commencent à se déplacer pour des raisons vraiment... climatique représente encore un nombre assez faible, mais quand il va y avoir vraiment des grands nombres de déplacements, c'est là qu'on va plus trop savoir quoi faire, sans en arriver au moment où un État indépendant disparaît complètement, quand il va y avoir 100 000, 200 000, 1 million, 3, 5, 10 millions de personnes absorbées, soit dans les pays limitrophes, soit plus loin, quel va être justement leur statut? La déclaration des droits de l'homme définit un droit d'être réfugié politique. C'est un droit, alors qui est respecté plus ou moins ici ou là, en France entre autres, c'est une autre question. Mais là, il va vraiment falloir définir un statut clair. Est-ce que ça va être le même? Est-ce que les demandes vont se faire de la même manière d'État à État? Un individu qui veut aller dans un État, ou est-ce que les réfugiés climatiques s'adresseraient à un organisme transnational, ONU ou autre, qui aurait le droit de dire à un autre État, vous les prenez? Il y a effectivement énormément de choses à inventer et le problème des frontières va encore qu'une fois se poser de manière brutale.
J'ai pas vérifié l'info depuis quelques temps, mais il me semble que si l'Australie hésite avec les îles Kiribati, c'est parce qu'elle a déjà signé un traité pour les îles Tuvalu où il y a un certain quota d'habitants qui sont acceptés chaque année. La question que je me pose aussi, là, c'est que le statut de réfugié climatique, même s'il n'existe pas encore, qui sera peut-être pris en compte lorsqu'on sera au pied du mur, signifie quand même l'éclatement ou le morcellement d'une nation, puisque je ne pense pas qu'il y aura un pays capable d'absorber une nation complète. Ça ferait une nation dans un autre État. Et que donc on va les distribuer à droite et à gauche, et c'est-à-dire qu'on va atomiser une population à travers plusieurs pays, ce qui pose aussi la question après de l'identité du peuple.
Donc c'est effectivement toute la question du nomadisme, c'est ça la définition de ces nouvelles populations, des populations qui vont passer de l'état sédentaire à l'état nomade. Donc effectivement, soit ils sont accueillis par d'autres nations, ou alors on essaie d'inventer un nouvel urbanisme qui permet justement ce transfuge vers des nouveaux territoires flottants, nomades. Je sais que par exemple dans le milieu artistique, il y a beaucoup d'artistes qui réfléchissent sur la pollution des océans et comment on pourrait absorber cette pollution des océans pour par exemple agréer toutes les particules plastiques qui sont dans l'océan pour construire des barges plastiques flottantes ou pour construire de véritables atolls qui sont construits sur des fondations de déchets qu'on pourrait récupérer comme matériaux de construction.
Il y avait déjà une tentative de ce point de vue-là, mais je crois que cet atoll flottant à partir de bouteilles plastiques avait disparu à la première tempête.
Oui, je pense que c'est pas très durable et soutenable. Après, il y a d'autres méthodes, par exemple, qui sont en cours avec des paysagistes sous-marins, avec des écologistes spécialisés dans le milieu marin, qui est par exemple la réintroduction de l'agriculture aquatique avec soit les moules ou soit les huîtres, qui permettent par exemple de limiter l'érosion des atolls, des îles. Il y a un projet comme ça qui est étudié à New York et également un autre aux Pays-Bas pour faire en sorte qu'en fait, par exemple, je prends l'exemple des huîtres, viennent créer des champs de culture aquatique qui viennent minéraliser entre 20 et 30 ans le fond marin, et cette minéralisation permet de créer des brise-lames naturelles pour éviter de créer des digues artificielles. Et donc c'est vraiment prendre l'écosystème, prendre la nature comme une nature architecte qui viendrait construire des barrières naturelles qui ensuite pourraient même être récupérées, donc cette matière minérale créée par les huîtres qui pourrait être utilisée comme matériau de construction, comme un ciment écologique sous-marin.
Alors, aussi, s'il y a des territoires qui vont disparaître, donc on parlait des îles du Pacifique, mais il y a aussi des territoires qui, grâce, si on veut, entre guillemets, au réchauffement climatique, vont devenir, je dirais, plus habitables et plus faciles à éviter, que ce soit le Groenland ou peut-être non. Est-ce qu'il y a des endroits sur la Terre qui vont devenir habitables et sur lesquels on pourrait éventuellement créer des nouveaux habitats?
C'est peut-être une bêtise. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a certains pays qui font pas le pari aujourd'hui que le réchauffement climatique leur sera profitable. Le Canada, la Russie, c'est aussi une des raisons de l'échec des grands rendez-vous internationaux, c'est que ces pays-là se disent, pour nous, ça ira mieux. En Russie, si vous imaginez 4 à 5 degrés de réchauffement moyen, vous vous dites c'est moins de chauffage, plus d'agriculture, ce sera plus facile de vivre, pareil au Canada, etc. Mais c'est des visions à court terme qui ne prennent pas en compte le monde globalisé tel qu'il est aujourd'hui. D'une part, ces pays-là vont passer par une période de transition assez compliquée parce que les sols gelés en permanence vont dégeler et donc toutes leurs infrastructures vont s'effondrer. C'est déjà le cas en Russie, des routes se déplacent, des immeubles s'effondrent parce qu'ils sont bâtis sur des sols gelés en permanence et ces sols fondent. Donc il va falloir tout détruire et tout reconstruire. Donc la phase de transition est déjà pas forcément facile. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, on peut pas s'imaginer être à l'abri des impacts qui se produiront ailleurs dans le monde, des déplacements de population qui impacteront des pays qui sont des partenaires, qui impacteront des alliés, etc. Je pense que ces pays-là s'imaginent aujourd'hui être un peu les greniers du monde, la Rome de demain. Leurs sols vont dégeler et ils vont produire les céréales qui nourriront les réfugiés climatiques ou les pays qui ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Mais c'est ne pas prendre en compte la colère internationales, les tensions internationales qui impacteront forcément aussi tout ce qui est de l'ordre du conflit, de la sécurité, de la géopolitique. Donc l'idée qu'on puisse être gagnant sur le réchauffement climatique est probablement une erreur.
Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ces tensions politiques? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on en sait déjà?
Je crois que le grand concept que le réfugié climatique risque de remettre en doute, c'est l'État-nation, parce que si on étudie entre autres dans la République française comment, à la à fin du 18e, 19e, on a commencé à réfléchir justement aux réfugiés politiques. Il y avait la question, qu'est-ce qu'un réfugié? Pourquoi l'accueillir? Quels seront ses droits? Et si on regarde quelles ont été les discussions à cette époque-là, on se rend compte que la discussion a très vite dérivé, non pas sur ce qu'était un réfugié, mais sur ce qu'était un Français. C'est le fameux thème de l'identité nationale qui remonte en fait à 2 siècles. Et c'est un peu la même chose, comme disait Philippe, il y a des États qui croient qu'ils vont aller mieux, qui vont s'en sortir mieux et qui vont laisser les autres tranquillement dans leur merde parce que c'est pas chez eux. Et on voit bien en ce moment les grandes conférences Copenhague, etc., qui sont des tentatives de créer un cadre global où on est 7, 8 ou 9 milliards à réfléchir. Et là, en fait, au lieu d'être 7 milliards à réfléchir ensemble, on est 200 pays à réfléchir chacun de son côté. Et je crois que ça va être ça le principal obstacle et peut-être la principale frontière mental qu'il va falloir renverser.
C'est vrai que du point de vue politique, s'il y a des nations qui pensent que demain le changement climatique leur sera profitable, l'exemple qui a été donné pour la Russie, cela va forcément créer des tensions. Il y a un roman de Norman Spinrad qui est paru il y a déjà un petit paquet d'années, Bleu comme une orange, où lors d'un colloque sur ce changement climatique, on voyait bien que la Russie, à cause de la Sibérie, n'avait aucun intérêt à voir le climat changer. Alors, c'est vrai qu'il y aura peut-être des climats qui seront demain plus cléments, mais si un nouveau écosystème se met en place, il faut bien savoir aussi que ce sera au détriment de l'écosystème précédent et que l'on est quand même en train de dégrader davantage les choses. Quand je vois que des gens se réjouissent devant le fait que demain, on pourra passer par l'Arctique beaucoup plus facilement, puisque il n'y aura plus de glace permanente, que ça va permettre de faire de nouveaux forages pétroliers. Bon, ben c'est sûr, ce sont encore les financiers qui seront contents. C'est sûr que ça va peut-être générer des emplois, du travail et de l'énergie pour tout le monde. Mais c'est sûr que ça va être très dommageable pour la nature.
Alors, puisqu'on... Tu commençais à parler de science-fiction et de la réponse à la science-fiction. Qu'est-ce qu'elle a à nous répondre, à nous dire la science-fiction qu'est-ce qu'elle a dit là-dessus sur les réfugiés de l'avenir, en dehors des utopies et, est-ce qu'il y a des gens qui se sont vraiment tournés vers des réponses concrètes?
J'ai pas lu toute la science-fiction. Généralement, elle est surtout très critique. Et jouant les alarmistes, on a beaucoup de descriptions de sociétés qui sont à la dérive et de nature bien abîmée. Depuis un certain temps, il y a quand même des recherches de solutions dans certains romans, peut-être influencées aussi justement par les travaux d'un architecte comme Vincent Calbeau ou par d'autres pour trouver de nouvelles solutions. En fait... Jean-Marc Ligny y pense. En ce moment, il a commencé une trilogie un petit peu pessimiste avec Exode. De mon côté aussi, j'essaie de m'inspirer des travaux qui sont actuellement pour essayer de montrer que c'est possible de changer encore, que l'on peut essayer de toute manière de réparer la planète et puis d'arrêter de la dégrader. Mais il y a encore, je pense, peu de romans dans la science-fiction qui traitent de ces problèmes-là.
Ce que j'ai essayé d'imaginer dans mon roman, c'est qu'en fait, quand Alexandrie allait être à moitié inondée, c'était la France qui allait obtenir le gigantesque contrat de reconstruction de tout ça en acceptant pendant 3-5 ans d'accueillir sur son territoire des gens en question. Et des deux côtés de la Méditerranée, ça va se passer, on va dire, plus ou moins bien. Et je crois que la question, c'est justement s'il y a un problème à un endroit, si on réussit à se mettre d'accord, à trouver les financements nécessaires pour soit reconstruire un endroit, soit créer des nouveaux habitats comme des îles de Vincent, pendant 3, 5 ou 10 ans, les gens, où est-ce qu'on les met là?
Donc moi je pense que pour tous les romanciers qu'il y a dans la salle, tous les vidéastes, tous les scénaristes, c'est vraiment, on se rend compte que c'est l'éco-science-fiction va devenir à mon avis une discipline qui va exploser dans les prochaines années, parce que suite à nos discussions en fait on se rend compte que rien n'existe. Il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de statut, on peut pas, un peuple nomade est interdit sur la Terre, aucun pays n'accepte d'avoir un quartier de Manhattan qui pourrait se détacher, qui pourrait naviguer, c'est interdit pour les statuts. Et donc tout reste à écrire, tout reste à imaginer pour savoir tout d'abord comment on va pouvoir avoir des comportements résilients, c'est-à-dire des comportements qui vont diminuer notre impact négatif, diminuer l'impact anthropique que l'on découvre néfaste depuis 10 ans sur la planète, suite à de nombreux romans et scénario hyper anxiogène où personne n'apporte de solution. Et donc en plus de ce phénomène de résilience, il faut savoir à la source comment on peut changer les choses, comment on peut changer nos modes de vie aujourd'hui pour arrêter de polluer, donc pour passer à cette fameuse génération post-carbone, cette génération post-pétrole, cette génération post-nucléaire, et savoir si un jour on sera effectivement obligé de quitter la Terre. Ça, par contre, il y a des milliers de romans qui sont partis vers cette dérive à très long terme. Ou est-ce qu'un jour on va réussir justement à trouver la juste symbiose, le juste équilibre entre l'homme et la nature? Et donc c'est la grande question, c'est les grandes pages blanches qui restent à écrire pour tous les créateurs de science-fiction, je pense.
On a du travail.
Oui, il y avait hier ou avant-hier, j'ai écouté une conférence qui parlait de l'humanité en danger et qui disait en finale, de toute façon, on n'arrivera pas, on n'ira pas dans l'espace ou alors dans 1000 ans, mais dans 1000 ans, on aura déjà résolu les problèmes des...
Il y a des problèmes beaucoup plus immédiats à résoudre. C'est sûr qu'il faut aussi penser à l'avenir et peut-être un jour songer à aller dans l'espace, c'est essentiel. Mais pour pouvoir se donner cette possibilité-là, il faut d'abord agir beaucoup plus concrètement au présent.
Et donc c'est ce qui est super excitant dans notre époque, c'est que malgré toujours ce carrefour, crise économique et crise écologique, c'est la première fois qu'on se rend compte que la planète qu'on va laisser aux générations futures sera moins équilibrée que la planète sur laquelle on vit. Donc effectivement, on a beaucoup de boulot dans tous les domaines, mais justement, c'est l'occasion de repenser nos paradigmes et de repenser la société en profondeur.
Mais les gens sont-ils prêts? Parce que c'est un peu ça la question que je posais tout à l'heure. Les gens n'ont pas l'air d'être vraiment... On a des dirigeants qui sont conscients, enfin, qui on l'a dit, mais qui visiblement ont d'autres objectifs. On parlait de la Russie tout à l'heure, ont d'autres intérêts en jeu qui dépassent l'intérêt des populations. Mais comment les populations elles-mêmes... Le vivre, moi, c'est ce que, un peu la question que je posais tout à l'heure. J'ai toujours pas ma réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la base conscients que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, la maison qu'ils habitent va être noyée?
Alors, je crois que c'est des concepts qui restent quand même extrêmement abstraits dans l'esprit d'énormément de gens. Et au niveau des réfugiés, on voit bien ce qu'ils sont. Passe en France en ce moment au niveau de l'accueil des réfugiés politiques en ce moment. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas que ça nous coûte trop d'argent, il faudrait même que ça ne nous en coûte pas du tout et qu'il n'y ait plus de réfugiés du tout. Alors si on imagine notre gouvernement en France essayer de dire qu'il faut mettre une taxes pour aller construire des nouveaux habitats au Bangladesh ou en Égypte ou reconstruire les îles polynésiennes qui ont disparu ou qui vont disparaître. Je crois qu'aux élections suivantes, ils auront un peu de mal. Et là, c'est le problème de se rendre compte que c'est le problème de tout le monde. Mais on a toujours, qu'est-ce que je disais avant, des problèmes plus immédiats. Chacun de nous doit se loger, se nourrir, espérer que tes enfants vont vivre dans 10 ou 20 ans raisonnablement bien. Mais cette question du climat fait partie de la façon dont nos enfants vont vivre bien ou mal dans 30, 50 ou 60 ans. Et j'ai l'impression que, enfin, qu'on le sait au fond, mais qu'on n'agit pas, en fait. Alors, j'ai pas vraiment de réponse. Il semble que je bloque aussi sur ce blocage-là.
Donc, moi, je pense que tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas que la planète est en train de se dérégler. Moi, j'ai l'occasion de voyager beaucoup en Chine. Et en Chine, le mot écologie n'existe pas. Ils ne savent pas ce que c'est l'écologie. Ils disent, nous, on est en pleine expansion économique. Vous, en Europe, vous êtes à 0,03%. Nous, on est à 15%. Donc, nous, on fabrique pour le monde entier. On construit des villes en 5 ans de 10 millions d'habitants sur des rizières. Et donc, quand même, depuis un an ou deux, ils font appel notamment aux architectes et urbanistes européens, parce que nous, la conscience écologique, on l'a depuis 10, 15, 20 ans. Eux, ils ne l'ont pas du tout. Ils commencent depuis seulement un an ou deux à s'en apercevoir. Et ils se rendent compte aussi que, grâce à la puissance économique qu'ils ont et au taux démographique auquel ils doivent pallier, ils ont de l'or dans les mains pour inventer l'écologie du futur. Et surtout pour la mettre en pratique. Parce que le problème, c'est qu'en France, on a les techniques, on a tous les intellectuels, mais on n'a pas les moyens financiers. Et donc, eux s'aperçoivent qu'ils l'ont, et je crois que on a souvent dit que les Asiatiques, notamment, copiaient le modèle européen, et qu'ils vont maintenant se balancer et réinventer, justement, les villes du futur.
On avait aussi dit que l'écologie se mettrait vraiment à exister quand elle deviendra rentable. Donc il y a plein de gens qui se préoccuperont d'écologie parce que ça permet de faire des profits.
Oui, mais donc après, moi je trouve que c'est toujours le challenge positif d'essayer de trouver des mécanismes économico-politiques, architecturaux, pour effectivement faire du profit, donc faire plaisir à des investisseurs, tout en casant un urbanisme et une architecture intelligente. Par exemple, en réduisant les boucles d'import-export, on peut baisser le prix de la nourriture, on peut baisser l'empreinte carbone, tout en repensant le mode de vie. Et donc, il y a plein de techniques comme ça qui sont en cours d'élaboration et qui permettront justement de remporter le grand challenge d'allier respect de l'environnement, stabilisation de l'activité anthropique sur Terre avec évolution économique.
Oui, mais alors, justement, on parlait tout à l'heure, au tout début, on estimait à le prix des îles flottantes Kiribati. En fait, est-ce qu'on ne va pas vers un monde à deux vitesses, c'est-à-dire des réfugiés climatiques riches qui pourront se payer les moyens de faire survivre leur mode de vie leur nation, et puis des gens comme le Bangladesh qui n'auront de choix que de se noyer.
Donc forcément on a une économie à deux vitesses, donc c'est plus facile de changer les choses à la base que de réparer les erreurs en essayant de les cicatriser. Néanmoins, là j'ai par exemple le troisième projet Coral Reef, qui est un projet commandité par la municipalité de Port-au-Prince à Haïti, qui suite au grand tremblement de terre a engagé des projets pour réhabiliter des zones portuaires industrielles existantes en zones de logement qui pourraient être construites très vite. D'où viennent les fonds? En fait, c'est du crowdfunding. C'est comme aujourd'hui on peut sortir un album musical en se faisant sponsoriser par ses fans. Là, c'était du crowdfunding humanitaire où finalement les gens pouvaient donner de l'argent à la fondation de construction rapide de bâtiments, et en donnant cet argent, ils pouvaient le déduire de ses impôts. Donc c'était des solutions win-win qui nous a permis, avec la municipalité, d'établir ce projet Coral Reef, qui est un projet d'apparence architecturale inédite, mais qui en fait est construite à partir d'un box de chantier AGECO qui est transformé en logement et qui est superposé comme les jeux Kapla ou les jeux Lego de vos enfants pour créer une ville organique générée à partir d'un seul logement préfabriqué en usine, apporté en cargo et construit en 6 mois. Comme la superposition d'un élément standardisé. La standardisation permet la pragmatisation économique. Cette pragmatisation économique permet d'inventer de nouveaux modèles qui sont autosuffisants en énergie, comme on l'a proposé dans ce projet.
Bien, beau projet. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le public et qui a certainement beaucoup de questions à poser. Donc voilà, donc il y a un micro qui circule. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, juste vous avez à lever la main. Voilà, c'est ça, la main.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que devient cette barrière de corail s'il y a un tremblement de terre.
Donc, nous, on est spécialisés dans les tremblements de terre parce qu'on a fait effectivement des projets à Haïti, des projets à Taïwan, donc sur des pays qui sont sur des failles tectoniques. On travaille notamment avec des équipes d'ingénieurs internationales, notamment en incorporant des ingénieurs sismiques japonais pour stabiliser les fondations de ces villes sur un système, en métaphore, sur un système de roulement à billes qui fait que quand la terre bouge, elle est complètement désolidarisée du socle du bâtiment qui fait que le bâtiment reste stable. Ensuite, par exemple, dans la construction maintenant, on imagine des bâtiments élastiques, c'est-à-dire des bâtiments où les poteaux peuvent réagir de façon télescopique, c'est-à-dire se rétracter avec un différentiel de 1 à 2 cm qui fait que, par exemple, une tour peut se plier sans rompre et accepte des taux de compression verticales ou horizontales pour encaisser ces mouvements sismiques. Et justement, ça coûte un peu plus cher à la construction, mais ça permet d'économiser étant donné que le bâtiment est durable et ne sera pas démoli en respectant les déformations de l'échelle de Richter jusqu'à 10.0.
Comment votre lilipad elle va être ravitaillée?
Comment le lilipad?
Donc en fait, les îles ne sont pas ravitaillées, c'est ça le secret. C'est les villes sont autosuffisantes en énergie alimentaire. Donc c'est un concept qu'on développe avec le MIT à New York, notamment sur le projet Dragonfly, et qu'on a réintégré dans le projet Lilipad des îles flottantes. C'est-à-dire qu'on part du concept que dans les générations futures, les citoyens d'une ville deviendront les propres producteurs de leur consommation alimentaire, laissant ainsi les campagnes produire justement l'énergie alimentaire nécessaire au territoire émergent ou au territoire destiné aux réfugiés climatiques, et laissant aussi l'agriculture à la campagne gérer les biocarburants du futur. Pour prendre l'exemple du projet Lilipad, en fait, si tu regardes les images, il y a une croûte de logement supérieure qui est recouverte de jardins suspendus et qui permet à chaque appartement d'avoir son potager et son verger suspendu. Ensuite, on a des bassins de viviculture qui permettent de pêcher le poisson en mer, et on a un grand ballast d'eau douce au centre du projet qui permet de récupérer les eaux de pluie et d'avoir de l'eau potable en milieu marin. Donc c'est tout le défi de la ville de demain, c'est de générer des bâtiments qui créent leur propre énergie électrique, qui permettent de se chauffer en hiver, de se refroidir en été de façon naturelle et de produire leur propre alimentation biologique.
Y a-t-il d'autres questions? Là, vous les avez séchées. Si, il y a encore une question.
Bonjour, c'est toujours une question pour Monsieur Caïbo. Est-ce que l'un des projets a déjà été réalisé, construit, bâti?
Donc, dans l'exposition qui présente 8 projets, on a 3 projets en cours de réalisation. Donc, le principal est la Tour Agora Garden à Taïwan, qui est un concours international qu'on a gagné il y a 3 ans pour construire une tour résidentielle écologique qui baisse de 50% sa consommation énergétique par rapport à un bâtiment traditionnel, qui est en chantier depuis 2 ans, qui sera livré en 2016. Et on a aussi le projet du village écologique au Maroc, qui présente une architecture inspirée des formes de la nature, tout en charpente bois, avec un bilan carbone égal à 0, dont le chantier va bientôt commencer.
Une autre question ?
Bonjour, je viens de Taïwan, je viens de Taipei, pas loin de le bâtiment que vous avez proposé. Ma question, c'est pourquoi vous supposez que les gens vont avoir de motivation de cultiver leur jardin comme vous avez dessiné? Parce que maintenant, quand on va dans la rue, même en France, les balcons sont désertés, il n'y a pas du tout de... À Nantes, même si c'est une capitale verte, il n'y a presque pas du tout de plantes sur les balcons. Et les Taïwanais aiment bien les plantes, mais en plus, le bâtiment est dans un quartier riche, quartier de luxe. Comment ces gens-là vont avoir de motivation à mettre le temps dans leur jardin? Et comment vous supposez c'est quoi votre plan de les inciter à partager avec vous dans votre plan d'architecture?
Donc, nous, le pari qu'on fait, ben, c'est un pari multiple fait entre les investisseurs, les politiques, donc la mairie de Taipei et mon agence d'architecture, de réintégrer un maximum la nature dans la ville. On essaye toujours de ne pas faire une nature cosmétique qui vient simplement emballer les bâtiments de couleurs vertes et de murs végétaux, mais d'avoir une nature active, une nature nourricière qui incite justement un changement de comportement. On estime que notamment à Taipei, où on a une magnifique végétation tropicale, cette végétation aussi permet de créer un tampon thermique entre l'extérieur et l'intérieur des bâtiments en baissant la climatisation mécanique de 50% via un rafraîchissement naturel de la tour généré par l'évapotranspiration des plantes. Et ensuite, comment pousser les habitants à devenir les agriculteurs de leurs propres fruits et légumes? Ça, c'est un pari qu'on fait aussi pour dire que on se rend bien compte que dans les nouvelles générations, on a perdu le contact de la terre. Donc, on ne sait plus d'où vient un œuf, on ne sait plus d'où vient un légume. Et donc, on fait le pari que, par rapport aussi à l'explosion des cancers ou des maladies qui sont dues à une agriculture industrielle, on va revenir à une agriculture personnelle, à une agriculture sociale, qui va aussi permettre dans les bâtiments d'inclure des nouveaux lieux de rencontre, de sociabilité. C'est le cas aussi quand on crée des vergers suspendus, c'est de dire les gens se rassemblent autour d'une activité. Ils ne se rassemblent pas autour de jardins esthétiques, mais de jardins producteurs qu'il faut cultiver, dont il faut s'occuper. C'est ce qu'on voit avec les community gardens à New York notamment, où les gens d'un même immeuble viennent sociabiliser, viennent se rencontrer, font jouer leurs enfants ensemble autour de ces jardins ludiques et actifs qui ne sont pas simplement des jardins esthétiques d'agrément.
À mon avis, si c'est une résidence de luxe dans un quartier riche, ce ne sont pas les propriétaires qui s'occuperont des culture.
Donc ça, moi j'en suis pas sûr forcément à 100%. C'est un projet qui existe nulle part dans le monde, donc on ne sait pas encore comment ça va interagir. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour savoir comment la tour aura évolué.
Voilà, on doit pouvoir prendre encore une dernière question, s'il y a quelqu'un qui a une dernière question. Non, plus de questions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie énormément nos intervenants. Voilà. Merci beaucoup. Merci.